Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le septième dimanche.
Je le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur la joue, présente aussi l'autre, et à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas aussi ta tunique. À celui qui te demande, donne, et à celui qui prend ton bien, ne réclame rien. Comme vous voulez que les humains agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle gratitude y a-t-il pour vous? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle gratitude y a-t-il pour vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quelle gratitude y a-t-il pour vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour recevoir en retour l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, alors votre salaire sera grand. Et vous serez les fils du Très-Haut, lui qui est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez et on vous acquittera. Donnez et on vous donnera. On vous donnera dans le pan de votre vêtement une belle mesure, bien tassée, secouée, super débordante. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. En entendant ces directives de Jésus à ses disciples, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent », nous sommes peut-être tentés d'imiter les gens de Capharnaüm. Cette parole est dure, qui peut l'entendre? » Ou bien de nous joindre à beaucoup de non-chrétiens qui sourient de ce conseil de présenter l'autre joue à qui nous frappe, des paroles qu'ils considèrent comme les naïves rêveries d'un illuminé.
Oui, c'est bien possible, mais... essayons de bien comprendre ce texte et voyons d'abord où il se situe dans le récit de Luc. Il fait partie de ce qu'on appelle le sermon dans la plaine, qui est le parallèle en Matthieu du sermon sur la montagne. Jésus vient de choisir les 12 disciples qui sont comme la préfiguration de tous ceux qu'il appelle à s'unir autour de lui, et il va maintenant expliciter le contenu de son évangile, de son message de bonheur. Et dans ce texte fondamental, nous pouvons voir comme le résumé du message de ce rabbi de Nazareth. C'est son commentaire de la Torah de Dieu, c'est-à-dire sa propre traduction de la pensée du Père divin, sur laquelle il invite son disciple à bâtir sa vie solidement. L'Évangile nous dit que son enseignement est du roc.
Je vous montrerai à qui ressemble celui qui vient à moi. Et qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à celui qui bâtit une maison, qui a enfoui et creusé profondément, et qui a mis un fondement sur le roc.
Et cet enseignement, bâti sur le roc, conduit au véritable bonheur.
Vous êtes sur le chemin du bonheur, vous les pauvres, car à vous est le règne de Dieu.
Et ce bonheur, Jésus va pourtant l'affirmer malgré toutes les oppositions et même les persécutions auxquels seront soumis plus tard ses disciples.
Vous êtes sur le droit chemin du bonheur lorsque les humains vous haïssent, lorsqu'ils vous excluent, vous outragent, Ils vous rejettent comme méprisable à cause du Fils de l'homme.
Alors, bien sûr, comment trouver ce bonheur dans un contexte d'exclusion et de souffrance? Eh bien, c'est ce à quoi répond le texte de l'Évangile de ce jour.
Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Alors, y a-t-il dans la Bible des traces d'un tel précepte qui demande d'aimer son ennemi? Nous pouvons d'abord aller voir ce que dit le Deutéronome au moment où les Hébreux vont entrer dans la terre d'Israël.
Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu viens prendre possession et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, lorsque le Seigneur ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras totalement à l'interdit. Mais voici ce que vous ferez à ces nations. Leurs autels, vous les démolirez, leurs idoles, vous les brûlerez. Car c'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour devenir le peuple qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. C'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai. Il garde son alliance et sa fidélité durant 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il paie de retour directement celui qui le hait, il le fait disparaître.
Il paie de retour directement celui qui le hait. On trouve donc dans la Bible un courant de pensée qui parle de la destruction des ennemis et qui présente cela comme la volonté même de Dieu. Cela se trouve tout spécialement lors de la période de l'installation des Hébreux dans la terre promise. Puisqu'Israël est le peuple de Dieu, les guerres qu'il entreprend et les victoires qu'il remporte sont donc les guerres et les victoires du Seigneur Dieu lui-même. Et l'amour du Dieu unique va commander en quelque sorte la haine des idoles, et cette haine des idoles entraîne à son tour la haine des païens qui adorent ces idoles. Un psaume de lamentation décrit bien ce courant de pensée.
Tire-moi du bourbier, que je n'enfonce, que j'échappe à mes adversaires, à l'abîme des eaux. Réponds-moi, Seigneur, car ton amour est bonté. En ta grande tendresse, regarde devant moi. Toi, tu connais ceux qui m'insultent. Mes oppresseurs sont tous devant toi. Déverse sur eux ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Charge-les tort sur tort, qu'ils n'aient plus d'accès à ta justice, qu'ils soient rayés du livre de vie, retranchés du compte des justes.
Eh bien, on voit très bien dans ce psaume qu'à la fois, il nous est dit cette bonté de Dieu qui se manifeste pour celui qui vit dans la justice et dans la droiture, tandis que l'impie, l'injuste, l'ennemi, qui s'enfonce dans l'abîme des ténèbres, vont être sous la colère de ce même Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est que pour cette façon de penser, on ne peut pas envisager que Dieu reste sans punir celui qui fait le mal, car il y va de l'honneur, de son honneur, de l'honneur de sa justice. Oh, certes, la Torah va pourtant s'efforcer de contrôler un peu cette réaction de violence contre ceux qui font le mal. Ainsi, la loi du talion, qui est édictée par Moïse, et qu'on résume dans ce fameux « œil pour œil, dent pour dent », eh bien, cette loi est un progrès par rapport à la loi de Lamech, qui prônait de se venger 7 fois. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. En plus, si la Torah demande de réprimander le compatriote, elle invite à ne jamais avoir de haine envers lui.
Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Tu dois réprimander ton compatriote et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. Mais tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur Dieu.
Ainsi donc, haine de l'ennemi, du païen, mais un grand amour sans condition presque pour le prochain, pour le compatriote. Eh bien, cette directive de la Torah, qu'on trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 19, et qui concerne donc le compatriote, vont être élargies pour s'adresser également aux étrangers immigrés.
L'étranger qui séjourne parmi vous sera pour vous comme l'Israélite de naissance, et tu l'aimeras comme toi-même. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu.
Eh bien, malgré ces lois qui essaient de contrôler un petit peu la vengeance, la haine, à l'époque de Jésus, on envisageait cette dernière loi qui concerne l'étranger immigré d'une façon assez restrictive, pour qu'en effet cette loi de l'aimer comme s'il était un compatriote soit appliqué, il fallait que cet étranger soit devenu juif en ayant reçu le baptême des prosélytes et la circoncision. Sinon, eh bien même si cet étranger vit en Israël depuis plus d'un an, il doit être considéré comme un païen. Et enfin, rappelons les Torah orales qui disaient qu'on n'était pas tenu de porter secours à l'étranger, même en cas de danger de mort. Et il se trouvait même des scribes pour affirmer que le meilleur des païens devait être mis à mort. Alors à la fois, nous voyons très bien que « tu haïras ton ennemi » ne se trouve pas textuellement dans la Bible, et il peut s'agir d'un dicton populaire en usage au temps de Jésus. Un dicton d'ailleurs dont on trouve l'équivalent dans le rouleau de la règle de Qumran, où le disciple qui s'engageait dans la communauté promettait d'aimer tout ce que Dieu a élu, et de haïr tout ce qu'il a méprisé, d'aimer tous les fils de lumière et de haïr tous les fils de ténèbres. En demandant d'aimer l'adversaire, l'ennemi, Jésus s'appuie donc sur cette Torah écrite qui demande de considérer l'étranger comme étant un compatriote, mais il va porter cette application à sa limite extrême. Il demande d'aimer l'ennemi. Oh, certes, l'amour dont il s'agit ici n'est pas les sentiments d'amitié ou d'affection. Jésus ne demandera pas de trouver sympathique celui qui nous méprise et qui nous humilie. Il s'agira d'une volonté profonde de faire du bien à celui qui fait du mal.
Dans quel contexte Jésus parle-t-il d'amour de l'ennemi ?
Eh bien, le contexte, c'est très probablement celui de cette violence et de cette haine dont lui-même Jésus sera l'objet, une haine, une violence qui vont le mener à la croix et que ses propres disciples vont connaître également après sa mort. On se souvient que Luc a conçu la scène de la visite à Nazareth, qu'il a mis tout au début du ministère de Jésus, comme une préfiguration de ce que sera le dénouement final de sa mission.
Dans la synagogue, tous sont remplis de colère en entendant cela. Les gens se lèvent et l'expulsent hors de la ville. Ils le mènent jusqu'au sommet de la colline sur laquelle leur ville est bâtie pour le précipiter en bas.
Alors comment comprendre cette colère qui va se tourner contre Jésus ? C'est une réaction à sa prédication de l'an de grâce. Il est venu annoncer qu'il faut vivre l'an de grâce, c'est-à-dire qu'il faut faire entièrement grâce à ceux qui nous doivent quelque chose, que ce soit de l'argent qu'on a prêté, que ce soit l'hypothèque d'une maison, que une personne ait dû vendre même, se vendre elle-même pour devenir un mercenaire parce qu'elle a une dette envers un grand fermier. Et non seulement chaque Israélite doit faire grâce, mais Dieu lui-même va faire grâce et va pardonner. Cette annonce de l'an de grâce, c'est un message de bonheur, et particulièrement, bien sûr, pour les pauvres. Mais cela implique aussi une perte des privilèges pour les Juifs eux-mêmes, puisque Dieu fait grâce. Les membres du peuple de Dieu n'ont plus de privilèges spéciaux. Dieu va manifester sa gratuité autant envers les païens qu'envers les Juifs. Et cette perte de leurs privilèges va provoquer la colère des gens de Nazareth. Et par la suite, eh bien, l'élite religieuse de Jérusalem va manifester la même opposition et la même colère. Lors de sa prédication à Nazareth, Jésus proclamait qu'il accomplissait ainsi le passage du prophète Isaïe.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer le bonheur aux pauvres.
Annoncer le bonheur, cela se dit en grec « Evangelium », et ce mot a été francisé en « Évangile ». Eh bien, cette annonce de bonheur, c'est essentiellement l'annonce que Dieu est Père, et parce qu'il est Père, il offre gratuitement son amour à tous. C'est Le bonheur va se trouver dans cette proximité d'un Dieu bon qui est la source véritable de la joie. En effet, devant ceux qui sont privés de cet amour par leur propre faute, Dieu, on pourrait dire, n'a qu'une seule passion, leur montrer que son amour n'a de cesse de leur redonner la joie. Dieu sera le père de l'enfant prodigue qui trouve sa joie dans le retour à la vie de son fils qui s'était perdu. Dieu sera ce père si humble qu'il court au-devant de son fils cadet pour se jeter à son cou et l'embrasser. Dieu sera ce père si humble qu'il ne se fâche pas contre le fils aîné enfermé en lui-même et qu'il va encore vers lui, qu'il sort pour le supplier. Le Dieu qui est père, ce Dieu de Jésus, illustre bien la définition qui est donnée de Dieu dans le livre de l'Exode, cette définition de Dieu qui a été confiée à Moïse.
Je suis Dieu, miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en fidélité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché.
Eh bien alors, si telle est la bonté du Père, on peut se poser la question, qu'en est-il de sa justice ? Comme le disent les textes bibliques anciens, Dieu ne doit-il pas juger, châtier tous ceux qui font le mal ? Certes, Jésus ne nie pas la justice, mais pour lui, elle est peut-être davantage comme les conséquences néfastes des gestes mauvais que l'on pose, plutôt que l'acte de Dieu lui-même qui punirait le pécheur. Pour prendre une image simple, l'enfant qui met sa main sur le feu, malgré l'interdiction de ses parents, va subir une brûlure, mais cette brûlure n'est pas une punition venant directement de ses parents. Eh bien, une telle vision de la justice de Dieu, dont on pourrait dire que c'est l'amour qui oriente cette justice, n'est pas celle de l'élite religieuse d'Israël. Grands prêtres et scribes pensent probablement que la vision de Jésus d'un Dieu de bonté ne peut, d'une certaine manière, qu'encourager les pécheurs au mal et saper ainsi l'ordre moral dans la société. Pour eux, si l'on ne craint plus Dieu, on supprime un frein qui est utile pour aider le pécheur à éviter la faute. Eh bien, cette divergence de vue entre Jésus et l'élite religieuse va conduire au rejet du rabbi de Nazareth. Mais alors, comment celui qui est ainsi condamné va-t-il se défendre, puisqu'il ne prêche que l'amour et la bonté ? Il ne pourra le faire que par les seules armes de la bonté, c'est-à-dire la non-violence, le don de lui-même et le pardon par amour. C'est dans le regard du Père tout aimant que Jésus va trouver la force et l'inspiration nécessaires pour faire face à l'opposition et aux menaces de mort. Et l'on peut dire que déjà les chants du serviteur d'Isaïe décrivaient l'attitude qui va inspirer la conduite de Jésus.
Je n'ai pas résisté et je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats.
Oui, la voie choisie par Jésus va être celle de l'amour. Face à l'adversaire, il n'y a pas place pour une violence destructrice, mais pour le pardon. Un pardon qui n'est pas oublié, mais s'efforcer de convaincre et de guérir celui à qui l'on pardonne.
À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Et à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.
Il ne faudrait pas se tromper, l'attitude prônée par Jésus n'est pas doloriste et masochiste. En effet, ni pour lui-même ni pour son disciple, il ne dit qu'il faut s'exposer au coup de l'agresseur. Lui-même ne présentera pas l'autre joue quand un des gardes le giflera lors de son procès. Au contraire, il se tient debout et lucidement l'interroge. « Si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Mais son attitude refuse de rendre coup pour coup, car il sait que la violence ne peut qu'entraîner la violence. La loi de justice du talion, œil pour œil, dent pour dent, ne peut pas en effet apporter la paix entre les ennemis. Il faut d'ailleurs ajouter que le contexte politique, qui était celui du temps de Jésus, ne favorisait pas nécessairement ce genre de comportement. La domination romaine pesait en effet fortement sur les épaules du peuple, des impôts très lourds, des humiliations de toutes sortes, celles que l'on fait subir à un pays conquis et colonisé. Il y avait à l'époque de petits groupes de Juifs qui étaient armés et qui tendaient des embuscades aux soldats romains. Ils allaient préparer ainsi une résistance qui allait aboutir à la guerre de 66, 30 ans après la mort de Jésus, et à la reconquête de Jérusalem, une reconquête qui ne durera que quelques mois. Beaucoup des auditeurs de Jésus attendaient du Messie qu'il prenne la tête de cette résistance. Mais Jésus ne croit pas au succès d'une révolution de la société qui se baserait sur la force et la violence. Qui prend l'épée, dira-t-il, périra par l'épée. La vision de Jésus s'oriente davantage à espérer un monde de paix et d'unité par une résistance non violente au mal et une volonté de réconciliation entre ceux qui sont en conflit. On ne peut faire autrement, dans les jours que nous vivons, de nous poser cette question 2000 ans après. Est-ce que cette vision de Jésus peut aider ceux qui vivent encore un terrible conflit sans fin sur le même sol? Dans ce conflit israélo-palestinien d'aujourd'hui, quels témoignages peuvent donner les chrétiens pour être fidèles à la vision de Jésus? Mais une telle espérance en la paix suppose des hommes et des femmes qui sont convaincus de cet idéal de réconciliation et qui commencent à le vivre dans leurs relations les plus proches et les plus ordinaires.
À celui qui te demande, donne, et à celui qui prend ton bien, ne réclame pas.
Comment en effet pouvoir se réconcilier avec son ennemi si on ne choisit pas de vivre en paix avec le prochain de chaque jour, celui de notre famille, de notre village, le compatriote? Et cela, même si le prix à payer est très cher. Plus tard, l'apôtre Paul interrogera les chrétiens de la communauté de Corinthe au sujet des procès que les membres de la communauté ont entre eux, et on retrouvera ici les mêmes conseils que ceux donnés par Jésus.
De toute façon, c'est déjà pour vous une déchéance d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne préparez-vous pas subir une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller?
Oh, il n'est certes pas question d'accepter l'injustice pour les autres, au prix de notre propre tranquillité, mais il s'agit ici de renoncer volontairement à défendre ses propres droits, s'il faut pour les défendre, exercer une violence sur l'autre. Car cette violence ne conduira ni à changer le cœur de celui qui nous a fait du tort, ni à recréer l'unité et la paix entre nous.
Quand vous voulez que les hommes, les humains agissent envers vous, agissez de même envers eux.
Matthieu dit que cette règle d'or, ce que vous voulez que les humains fassent pour vous, faites-le pour eux, résume la Torah et les prophètes. Oh, cette règle d'ailleurs n'est pas spécifiquement chrétienne, puisqu'on la retrouve chez des auteurs païens, et on la retrouve aussi dans la tradition juive. Ainsi, le célèbre docteur pharisien Hillel avait résumé le judaïsme en cette règle d'or: « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fie à toi-même ». Mais Jésus formule cette règle de façon positive, car en effet, lorsqu'elle est énoncée négativement, « Ne pas faire à autrui ce que l'on ne veut pas qu'il nous fasse », cette règle se base sur la justice: ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignages. Il s'agit alors d'être correct en étant fidèle à la Torah. Mais lorsqu'elle est énoncée positivement, agis envers l'autre comme tu voudrais qu'il agisse envers toi, alors cette règle ne vise pas seulement un idéal de justice, mais un idéal de bonté sans limite. Elle souligne l'importance de prendre l'initiative de faire du bien sans même espérer qu'il nous sera rendu. Aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul insistera dans le même sens.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
Et cette gratuité dans toute relation, eh bien, Jésus invite ses disciples à la vivre.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, pour vous, quelle gratitude y a-t-il? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, pour vous, quelle gratitude y a-t-il? Même les pécheurs en font autant.
Si l'amour de l'ennemi est ainsi le précepte ultime de Jésus, c'est précisément parce que cet amour de l'ennemi exige la gratuité totale de la relation. Et si l'enseignement de Jésus est évangile, c'est-à-dire une annonce de bonheur, c'est précisément parce qu'il nous met en chemin vers l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. C'est en effet cette façon d'aimer qui fait naître en nous la vraie joie. Pour le disciple de Jésus, l'amour de l'ennemi sera en effet le test de la qualité, de la sincérité, de la gratuité de son amour. Il va faire sortir le disciple du cadre normal, du donnant-donnant. Il va dépasser la normalité des relations entre les gens pour demander de vivre totalement la gratuité dans l'amour. La source et le modèle de cette manière d'aimer le prochain se trouvent en Dieu. En effet, déjà la Torah invitait les membres du peuple de Dieu, à être parfaits et saints.
L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dis-leur, « Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Tu seras parfait vis-à-vis du Seigneur, ton Dieu. »
Eh bien, cette recommandation du Deutéronome et du Lévitique est reprise par Jésus dans le récit de Matthieu. « Vous soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et Luc va traduire cela par le précepte de la miséricorde. « Soyez miséricordieux comme aussi votre Père est miséricordieux. » Jésus nous dit ainsi qu'il n'y a rien de divin en nous si on ne fait qu'aimer celui qui nous aime, mais qu'il y a du divin si l'on fait du bien sans rechercher un intérêt quelconque, sans mettre aucune condition.
Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, lui qui est bon pour les ingrats et les méchants.
Ainsi l'on peut dire que la gratuité totale de l'amour est une miséricorde qui va jusqu'à aimer son ennemi, et qu'une telle miséricorde est divine. C'est à ce niveau du divin que Jésus nous invite à nous situer, et il le fait, et il peut le faire, parce que lui-même nous communique la vie divine de son Père. Terminons par cette réflexion d'un philosophe qui est pourtant athée, André Comte Sponville, mais qui a très bien décrit la caractéristique la plus originale de Jésus, qui est ce précepte qu'il a laissé à ses disciples d'aimer gratuitement et d'aimer même l'ennemi.
Cet amour qui aime jusqu'aux ennemis, cet amour universel et désintéressé, c'est ce que le grec des Écritures, depuis la Bible des Septante jusqu'aux Épîtres apostoliques, appelle agapé. Ainsi, dans l'Évangile de Saint Jean, Dieu est amour. C'est où l'on retrouve la passion, mais en un tout autre sens. Ce n'est plus la passion d'Éros ou des amoureux, c'est celle du Christ et des martyrs. C'est où l'on retrouve l'amour fou, mais en un tout autre sens. Ce n'est plus la folie des amants, c'est la folie de la croix. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Notre site est www.relaismontroyal.com.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.
So Thank you.